Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Québec Science et ACFA. Au programme, l'étrange effet noix du Brésil. Résurrection 2.0. Et Darwin au Québec. Petite histoire d'une grande résistance à la théorie de l'évolution. Bonne écoute.
L'étrange effet noix du Brésil. Un texte de Simone Caron, paru le 22 mai 2023 dans le magazine Québec Science. Avez-vous déjà remarqué que les noix du Brésil se retrouvent souvent sur le dessus des mélanges de noix? Pourtant, ce sont les plus lourdes. Pourquoi ne se ramassent-elles pas au fond du pot? Une équipe européenne s'est penchée sur ce phénomène contre-intuitif surnommé l'effet noix du Brésil. Si l'intrigue, c'est qu'il ne concerne pas que les noix. L'effet se vérifie aussi lorsqu'on soumet un mélange de grains de diverses tailles à des vibrations. Les plus gros, et souvent les plus lourds, ont tendance à monter à la surface, comme s'ils flottaient sur les autres. La raison? Lorsqu'on agite un tel mélange, des espaces entre les grains se créent, et les plus petits peuvent donc se frayer un chemin jusqu'au fond du contenant, poussant ainsi les plus gros vers le haut. Or, pour la première fois, des scientifiques des universités d'Utrecht et de Varsovie ont observé cet effet se produire sans secousse, donc sans apport externe d'énergie. L'expérience a été menée sur un mélange colloïdal, soit des particules extrêmement fines en suspension dans un liquide. Dans ce cas, le mélange était composé d'une huile et de particules d'environ 1,3 et 2,8 microns de diamètre. Les plus grosses jouaient le rôle des noix du Brésil. Un micron, c'est 100 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu humain, rappelle David Vidal, professeur au département de génie mécanique de Polytechnique Montréal, qui n'a pas participé à l'étude. Ces particules-là sont tellement minuscules qu'elles sont influencées par l'agitation moléculaire et par les forces électrostatiques. En effet, les molécules d'huile vibrent lorsqu'elles sont à l'état liquide et les particules du mélange sont si petites que cette agitation suffit à les faire bouger elles aussi. Les forces électrostatiques contribuent également à ce mouvement. Leur surface étant chargée positivement, les particules se repoussent entre elles. Et les plus grosses, portant une charge plus élevée, se repoussent davantage que les petites, ce qui les entraîne plus facilement vers la surface. Ainsi, même sans apport externe d'énergie au système, les forces qui se produisent à cette échelle peuvent être suffisantes pour ségréguer des particules selon leur taille. Cette découverte, publiée dans PNAS, pourrait notamment aider à prolonger la durée de vie des peintures. Quand on la laisse reposer trop longtemps, la peinture se sépare, indique le professeur Vidal. Mais, en tenant compte du phénomène, on pourrait réussir à former un mélange avec une structure qui reste stable. C'était « L'étrange effet noix du Brésil », un texte de Simone Caron, paru le 22 mai 2023 dans le magazine Québec Science. Résurrection 2.0. Un texte de Joël Leblanc, paru le 29 mars 2018 dans le magazine Québec Science. Dans les salles de réanimation, on affine les outils pour arracher les gens à la mort. Parmi les nouvelles tendances, la circulation extracorporelle, une manœuvre audacieuse qui pourrait augmenter le taux de survie. Dans la salle de choc de l'hôpital, une demi-douzaine de blouses blanches s'affairent comme des fourmis autour d'un patient en arrêt cardiaque. On le dépouille de ses vêtements, on lui masse vigoureusement le thorax, on l'intube, on le branche sur des moniteurs. Inanimé, le teint blafard, il ne perçoit rien de la chorégraphie rodée et précise qui se déploie autour de lui. Son cerveau, en manque d'oxygène depuis une dizaine de minutes, ne fonctionne plus. Il n'entend pas les humains qui l'entourent lorsqu'il lance « Clear », pas plus qu'il ne ressent l'électricité qu'il parcourt lorsque le défibrillateur envoie sans succès les décharges dans sa poitrine. Cette scène se joue et se rejoue tous les jours dans tous les hôpitaux du monde. Dès qu'un patient en arrêt cardiaque est amené à l'urgence, on démarre ses procédures, même si on ne connaît pas encore tout le contexte de l'incident ou les antécédents du patient. C'est la seule méthode qui a fait ses preuves pour améliorer les chances de survie, expose Alain Vadeboncœur, l'urgentologue bien connu des Québécois. Le but du massage cardiaque est de prendre le relais du cœur et de rétablir un minimum de circulation dans l'organisme. Les compressions régulières du thorax font aussi entrer et sortir de l'air des poumons, ce qui contribue à l'oxygénation du sang. Un massage bien mené permet de fournir au cerveau environ 30% de l'oxygène qu'il reçoit normalement, indique Alain Vadeboncœur. C'est peu, mais c'est beaucoup mieux que rien du tout. Contrairement à ce qu'on voit parfois au cinéma, le massage, à lui seul, ne peut pas redémarrer un cœur défaillant. Il permet seulement de limiter les dégâts au cerveau où, pendant ce temps, des milliers de neurones meurent par manque d'oxygénation. Notre deuxième outil efficace, continue l'urgentologue, c'est le défibrillateur. Quand ça marche, le choc qu'il produit remet les cellules du cœur au pas pour qu'elles se contractent à nouveau en cadence et que le pouls redevienne régulier. Deux outils, c'est tout? Oui, confirme Alain Vadeboncœur. On injecte par ailleurs systématiquement de l'adrénaline, puis de l'atropine ou de l'amiodarone, selon les cas, en se convainquant qu'on aide plus qu'on nuit, mais nous n'avons aucune preuve de leur effet. On serait dû pour de nouvelles trouvailles afin d'accroître la proportion des réanimations réussies chez les patients qui ont subi un arrêt cardiaque hors de l'hôpital. Un taux qui avoisine les 2 à 5 % selon lui, mais qui atteindrait les 10 à 15 % selon les statistiques officielles de certains hôpitaux. Tout dépend de la façon dont on sélectionne les patients inclus dans ces statistiques, nuance-t-il. Une manœuvre audacieuse pourrait toutefois changer la donne. L'oxygénation par membrane extracorporelle, aussi appelée ECMO, de son acronyme anglais Extracorporeal Membrane Oxygenation. Cette technique est habituellement réservée aux interventions de chirurgie cardiaque. Elle consiste à faire circuler le sang du patient à l'extérieur de son corps grâce à une pompe et à l'oxygéner au passage avant de le renvoyer dans l'organisme. Deux grosses canules sont insérées au niveau des aines du patient dans l'artère et la veine fémorale. L'une pour la sortie du sang, l'autre pour le retour. Perfectionnés et miniaturisés, ces appareils peuvent désormais être posés rapidement, y compris en situation d'urgence. Lorsqu'on branche un patient sur ce système, on peut arrêter le massage cardiaque et ça enlève un peu de pression pendant que l'on continue à travailler pour redémarrer le cœur, explique Alexis Cournoyer, jeune urgentologue à l'Institut de cardiologie. Autre avantage de l'ECMO, il est possible de refroidir le sang avant de le retourner dans le corps, ce qui permet d'abaisser rapidement la température du patient et, par conséquent, de ralentir le métabolisme du cerveau. On descend de quelques degrés seulement, jusqu'à 34 degrés Celsius, par exemple, continue Alexis Cournoyer. Ainsi, on fait d'une pierre deux coups. On fournit de l'oxygène au cerveau et on l'oblige à le consommer plus lentement. La technique CMO n'est toutefois pas courante en réanimation d'urgence. À l'Institut, 14 patients en avaient bénéficié à la mi-2016. 6 ont survécu et sont neurologiquement indemnes. 8 sont décédés, précise Alain Vadeboncœur. Pour le moment, aucun protocole officiel ne dicte l'utilisation de l'ECMO. Dans les salles de choc, on procède donc avec prudence en l'appliquant seulement aux patients de moins de 65 ans n'ayant aucun problème de santé important et chez qui on a commencé un massage cardiaque de façon ininterrompue moins de 5 minutes après l'arrêt du cœur. Autre condition, leur cœur ne pompe toujours pas après 3 défibrillations. On le comprend, la manœuvre n'est pas anodine et comporte sa part de risque. Vous écoutez Résurrection 2.0, un texte de Joël Leblanc paru le 29 mars 2018 dans le magazine Québec Science. De 20 à 30 taux de survie des victimes d'arrêt cardiaque ayant bénéficié de l'ECMO à l'hôpital. De plus, il faut être au bon hôpital, au bon moment, ajoute Alexis Cournoyer, car la procédure requiert du personnel spécialisé comme un perfusionniste. Si cette stratégie commence à se répandre dans les services d'urgence du monde, il faut souvent s'en passer, faute de thérapeutes compétents. À peu près tous les hôpitaux sont équipés du matériel nécessaire, mais l'équipe de CMO n'est pas disponible en permanence à l'urgence. D'autant que ceux qui arrivent à l'urgence en état d'arrêt cardio-respiratoire sont loin d'être tous éligibles en raison du manque de continuité des soins lors du transport jusqu'à l'hôpital. Pas facile, en effet, de maintenir un massage cardiaque efficace dans une ambulance en mouvement ou sur une civière qu'on descend par un escalier. La solution? Un masseur artificiel, c'est-à-dire un piston mécanique installé sur une civière qui appuie vigoureusement sur le thorax de la victime à une cadence soutenue, sans fatigue. À Vancouver, un essai clinique est en cours dans lequel on a entraîné des ambulanciers à repérer les cas pouvant bénéficier de l'ECMO et à utiliser sur ces patients le masseur artificiel. On espère ainsi tripler les taux de survie à la suite d'un arrêt cardiaque. Encore mieux, pourquoi ne pas apporter le CMO directement sur les lieux du drame? C'est ce que font désormais les médecins secouristes à Paris après avoir testé avec succès le dispositif au cours d'un projet pilote sur 156 victimes de crise cardiaque réfractaire sans reprise de pouls après 20 minutes. En 2017, les résultats ont été publiés montrant que 29% des victimes étaient sauvées contre 3% de celles ne bénéficiant pas de l'ECMO. Fortes de ce succès, les équipes du SAMU, Service d'aide médicale urgente, ont déjà commencé à former leurs homologues ailleurs en France et dans le monde. Si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, ils rejoignent ceux que l'on observe lorsque l'ECMO est utilisé à l'hôpital. Plusieurs études ont démontré que, dans ces cas, les taux de survie oscillent entre 20 et 30 soit le double de ce qui est atteint sans cette méthode. Voilà de quoi donner espoir aux médecins et aux ambulanciers qui, chaque année au pays, tentent de ressusciter 45 000 victimes d'arrêt cardiaque. C'était Résurrection 2.0, un texte de Joël Leblanc, paru le 29 mars 2018 dans le magazine Québec Science. Darwin au Québec, petite histoire d'une grande résistance à la théorie de l'évolution. Un texte de Michel Lefebvre, paru le 8 juin 2023 dans le magazine ACFAS. La théorie de l'évolution de Charles Darwin fait l'effet d'une bombe au milieu du 19e siècle. Cette hypothèse, qui contredit les affirmations de la Bible et diminue la place de l'humain dans l'univers, suscite des débats acrimonieux dans les décennies qui suivent. Au Québec, on résistera longtemps à cette théorie à l'odeur de soufre. En 1859, Charles Darwin, 1909-1882, publie à Londres « On the Origin of Species by Means of Natural Selection », un ouvrage qui révolutionnera les sciences naturelles. Il y stipule que les espèces vivantes sont en constante évolution et non immuables, et que loin d'avoir été créées indépendamment les unes des autres, elles pourraient descendre d'un même proto-organisme. Sa théorie suppose une très grande ancienneté de la Terre, puisque les mécanismes ayant conduit à la complexification et la diversification des vivants, qui caractérisent notre ère, ont demandé des centaines de millions d'années de travail. Certains chercheurs, comme le naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck et le propre grand-père de Charles, Erasmus Darwin, avaient déjà évoqué certaines théories transformistes, mais sans fournir le faisceau d'observations convaincantes de Darwin. Les conclusions de Darwin vont à l'encontre de la majorité des convictions des scientifiques d'alors. La théorie dominante à l'époque, en accord avec une lecture littérale de la Bible, est celle de la fixité des espèces. Dieu a créé tel quel toutes les espèces vivantes au moment de la Genèse, et si quelques-unes ont disparu, comme les dinosaures, le déluge biblique ou d'autres catastrophes naturelles, en sont probablement responsables. Quelques siècles auparavant, des savants chrétiens avaient calculé l'âge de la Terre en se basant sur les Saintes Écritures. Dieu aurait créé notre monde en 4004 avant Jésus-Christ. La géologie, comme science moderne, émerge au tournant du 19e siècle. Le développement de la stratigraphie, grâce à laquelle on peut dater les couches sédimentaires ainsi que l'étude des fossiles qu'on trouve dans ces dernières, amène certains scientifiques tels que James Hutton et Charles Lyell à soupçonner que la Terre serait beaucoup plus vieille qu'on ne l'avait cru jusqu'alors. Une observation attentive des fossiles révèle en outre la diversité des formes vivantes et leur transformation au fil du temps. Plus on fouille, plus l'univers apparaît ancien. En cette deuxième moitié du 19e siècle, le monde savant européen et américain se trouve donc dans une position de plus en plus intenable. Les nouvelles preuves convergent sans cesse pour rendre plausibles les théories de Darwin. Malgré les convictions religieuses de la plupart des naturalistes occidentaux, la théorie de l'évolution sera vite considérée par plusieurs d'entre eux comme crédible, bien que chaudement discutée dans ses détails. Et au Québec, les conclusions de Darwin vont à l'encontre de la majorité des convictions des scientifiques d'alors. La théorie dominante à l'époque, en accord avec une lecture littérale de la Bible, est celle de la fixité des espèces. L'homme et la Bible au Québec. Tout d'abord, il convient de dire que la recherche scientifique en est encore alors à ses balbutiements dans la province, surtout du côté des francophones. L'Église catholique québécoise, qui s'appuie sur une idéologie ultramontaine en progression dans le monde occidental et dont la position a été renforcée par l'échec des rébellions des patriotes qu'elle avait condamnées, consolide à l'époque son emprise sur tous les aspects de la société francophone. C'est particulièrement vrai de l'éducation, assurée en grande partie par les communautés religieuses. Les programmes d'études ne font guère de place à la science, et encore moins aux savoirs récents issus de la recherche. On vise à transmettre des savoirs canoniques, qui ne perturbent pas trop l'Église, alors un important pouvoir sociopolitique plutôt que de former des esprits critiques. Les premières protestations québécoises contre le darwinisme viendront des milieux anglo-saxons, et notamment du géologue John William Dawson, directeur du McGill College de Montréal. Dès 1860, avec son livre « Archaïa », et pour le reste de sa vie, ce fervent presbytérien cherchera à faire coïncider le récit biblique avec les dernières découvertes de la science, au risque de perdre sa crédibilité auprès du monde scientifique. Selon lui, « There is absolutely nothing in science which obliges us to renounce our belief in the beautiful story of the garden of the Lord in the fall and in the antediluvian history. » Vous écoutez Darwin au Québec, petite histoire d'une grande résistance à la théorie de l'évolution. Un texte de Michel Lefebvre, paru le 8 juin 2023 dans le magazine ACFAS. Dans On the Origin of Species, Charles Darwin avait évité de se prononcer sur la place de l'humain dans sa théorie, mais en 1871, il fait paraître The Descent of Man, dans lequel il affirme que le singe est l'ancêtre de l'être humain. Cette prise de position heurte de plein fouet la doctrine chrétienne de la création, au sein de laquelle notre espèce occupe une place à part, car dotée d'une âme et créée à l'image de Dieu. L'ouvrage provoque de nombreuses autres réactions réprobatrices de la part de protestants et de catholiques au Québec comme ailleurs dans le monde. On peut penser qu'un sentiment d'orgueil blessé face à un tel abaissement de notre statut au sein de l'univers est à l'origine de plus d'une objection. Les programmes d'études ne font guère de place à la science, et encore moins aux savoirs récents issus de la recherche. On vise à transmettre des savoirs canoniques qui ne perturbent pas trop l'Église, alors un important pouvoir sociopolitique plutôt que de former des esprits critiques. Faute de compétences scientifiques, les journalistes canadiens-français se contentent d'exprimer une opposition indignée et vont même jusqu'aux attaques personnelles gratuites. Dans le Journal de Québec, on affirme l'année de la publication de « The Descent of Man » que les théories de Darwin ne trouvent d'admirateurs que parmi cette classe de gens qui finissent leurs jours dans les maisons de santé, les récits, les hôpitaux psychiatriques. Le même quotidien se permettra d'écrire en 1882, alors que le père de l'évolution vient de mourir. Ajoutons que, sous le rapport physique, Darwin n'était perfectionné que tout juste, et quand on regarde son portrait, on conçoit aisément que l'idée de l'origine simiesque de l'homme lui soit venue. Il a dû trouver cela dans un miroir. Dans un genre plus relevé, John William Dawson fait paraître, peu après The Descent of Man, son ouvrage The Story of the Earth and Man, qui se donne pour objectif de réfuter la théorie de Darwin concernant l'origine de l'humain. Le scientifique canadien peut difficilement attaquer les preuves géologiques de plus en plus fortes de l'antiquité de la Terre et de ses habitants. Pour contourner le problème, il prétend que l'humain a été façonné par Dieu après la période glaciaire dans un jardin d'Éden conçu pour lui au moment d'une seconde création. « It became as the garden of the Lord, fitted for the reception of his image and likeness, immortal and intelligent man. We need not, however, with one modern school of philosophy, regard man himself as but a descendant of Miocene apes, scourged into reason and humanity by the struggle for existence in the glacial period. We may be content to consider him as a son of God. » La vraie science. Peu nombreux, les scientifiques canadiens-français se trouvent pour la plupart parmi les ecclésiastiques. On peut supposer qu'ils n'apprécient guère le darwinisme. L'abbé Léon Provencher, naturaliste et fondateur de la revue Le Naturaliste canadien, se lance à quelques reprises dans une condamnation virulente de la théorie. Selon lui, toutes les découvertes en histoire naturelle confirment le récit biblique. En effet, il ne peut se faire que l'observation soit en désaccord avec la révélation, parce qu'elles sont toutes deux la voix de Dieu. Provencher avance les arguments classiques des anti-évolutionnistes. Le fait qu'on n'ait jamais pu observer une espèce se transformer en une autre constitue en soi une preuve de la fixité des espèces. Cette théorie se voit corroborée par le fait qu'il n'existe aucune mention de mutation dans les écrits de l'Antiquité ni de constatation de variations anatomiques dans les momies de l'Égypte antique par rapport aux vivants d'aujourd'hui. Il est en effet encore difficile à l'époque d'accepter l'idée d'un monde vivant évoluant sur une durée aussi vertigineuse que des centaines de millions d'années. Autre preuve de la fixité des espèces, Les hybrides animaux et végétaux observés dans la nature ou produits par l'humain n'ont jamais donné naissance à une nouvelle espèce capable de se reproduire sur plusieurs générations. D'ailleurs, la redécouverte des lois de l'hérédité de Mendel au tournant du XXe siècle semblera d'abord invalider la théorie de l'évolution. Même Marie-Victorin s'y laissera prendre au début de sa carrière. Dans un article sur des hybrides végétaux, il soutient que la loi des hybrides de Mendel a porté un coup fatal à l'évolutionnisme et que l'évolution par la sélection naturelle fut une grave erreur. En utilisant des arguments similaires, Mgr Thomas-Étienne Hamel, recteur de l'Université Laval, condamne le darwinisme dans ses discours de présidence de la Société royale du Canada de 1887 et de 1891. Il dit combattre cette thèse radicalement anti-religieuse au nom de la science et non de ses convictions personnelles. Pour lui, dans l'état actuel de la science, la seule opinion vraiment scientifique, en tant qu'appuyée sur les faits et sur l'expérience, est celle de la fixité des espèces. Le darwinisme ne saurait donc être classé que parmi les théories antiscientifiques. Peu nombreux, les scientifiques canadiens-français se trouvent pour la plupart parmi les ecclésiastiques. On peut supposer qu'ils n'apprécient guère le darwinisme.
Pour entendre la suite de Darwin au Québec, petite histoire d'une grande résistance à la théorie de l'évolution. Veuillez rester à l'écoute puisque On lit pour vous continue après la pause. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.